libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Je le disais tout à l'heure, avec Barbie, il y a des faits divers qui ne vont pas rester comme ça impunis. L'histoire du petit garçon qui a été tabassé, qui avait le cancer, donc à Ajaccio, dans le cadre d'un match de foot. Et puis cette histoire à l'INSEE, où on a l'impression que Pabia n'a strictement rien fait, pas grand-chose. En tout cas, ce qui est encore plus le cas du collège de cette jeune fille qui s'est suicidée pour harcèlement. Il y a beaucoup de sujets, il y a les histoires de remaniement, mais nous allons revenir sur cette manifestation parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. En fait, on a l'impression que dans les journaux, je vais être extrêmement rapide. Tout le monde s'en fout, sauf l'idée ou la perspective, enfin, pas ceux qui manifestent, évidemment, sauf la perspective de ce qui s'est passé le premier. C'est à 400 blessés dans les forces de police. C'est pas un point de vue de droite, etc. C'est une réalité. 400 policiers blessés. Grande enquête dans Le Monde sur la nature des Black Blocs. C'est assez intéressant de lire ce papier parce qu'on voit que ce sont des gens extrêmement divers, des hommes, des femmes, pas forcément des énormes baraqués ou des muscleurs, mais des gens qui ont envie de procéder à une sorte d'insurrection en première ligne. Et ces profils, aussi disparates qu'ils fussent, sont quand même assez symptomatiques de ce qui se passe. Et très peu d'entre eux sont dépolitisés. C'est ça qui est curieux. Que pensez-vous, Hervé, vous qui avez longtemps travaillé sur les affaires de sécurité, de ce qui peut se passer aujourd'hui, sans sombrer dans le catastrophisme?
Bah, malheureusement, il est maintenant habituel en France que dans la plupart des grandes manifestations, il y a à un moment donné, et souvent sur la fin, des mouvements violents.
Ils le disent tous dans Le Monde. On va y aller, on va y aller.
Avec des affrontements contre les policiers, souvent déclenchés par ces activistes qui viennent pour cela, qui viennent pour s'affronter avec la police, et avec, il faut le rappeler, parfois des objets, des boules de pétanque, des choses comme ça. Vraiment des objets qui sont faits pour faire du mal et même pour tuer. Donc ce sont des gens en fait dont le point commun, vous l'avez dit, est moins idéologique que dans la fascination de l'hyperviolence. Et donc au fond, c'est ça leur idéologie.
Et il y en a très peu qui sont des héritiers des autonomes des années 70.
Oui, façon action directe, etc. C'est beaucoup moins élaboré que cela, en fait.
Il y a des secrétaires de direction, vous avez...
Et donc, le vrai point commun, me semble-t-il, c'est une fascination pour l'hyperviolence qui tient lieu d'idéologie. Face à cela, la police est de mieux en mieux organisée. Je trouve qu'il faut saluer quand même le travail du préfet de police, Éric Nunes, par rapport à son prédécesseur. Laurent Nunes, pardon.
Je vous en prie.
Par rapport à son prédécesseur, c'est pas une question de personne, mais en tout cas sur le plan de l'organisation, c'est beaucoup plus efficace et donc c'est une politique du résultat aussi en matière de sécurité. Ça se passe mieux. Les manifestations, en tout cas telles qu'elles sont encadrées par les organisations syndicales, se déroulent assez bien. Il y a toujours ces fauteurs de troubles. Malheureusement, je crois que on est obligé de s'y habituer, même si c'est objectivement insupportable dans un pays comme le nôtre.
Voilà, je voudrais simplement dire sur un autre sujet qu'on ne pourra pas traiter parce qu'il est très compliqué, qu'il y a énormément de papiers ce matin concernant le cancer, avec non seulement des découvertes à Chicago sur le poumon, des vaccins pour les cancers ORL, et encore dans Le Monde, décidément, je n'ai lu qu'un seul journal hier soir, c'est normal, c'est le seul qui sort le soir, une polémique.
Non, ils sortent presque tous le soir, Guillaume.
Sur l'accès aux médicaments innovants qui a été refusé à trois molécules qui servent justement, et qui sont hyper efficace sur le cancer et qui, comme par hasard, sont chez nos voisins et pas ici en France. Mais je voudrais qu'on vienne sur une autre affaire, une grande thématique, c'est la thématique américaine. Car la presse a chanté les louanges de Springsteen ces derniers temps, de Beyoncé qui sont passés par la France. Nous avons Mike Pence, 200 teasers. Vous allez me dire que je fais une sorte d'amalgame, mais c'est vrai qu'on a l'impression en ce moment que les Américains sont en recul. Alors vous avez l'OTAN qui est en avance, vous avez la campagne américaine qui démarre, vous avez, on vient d'avoir les chiffres, les titulaires des postes, si l'on peut dire, des plus grands milliardaires du monde. Bernard Arnault, numéro 1. Les 9 suivants sont américains. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un grand recul américain, plus Biden qui a réglé en une semaine l'affaire de la dette. Et nous sommes aussi en pleine commémoration du débarquement. Donc, je ne vais pas transformer ma parole en espèce de sardou, les ricains, etc. Mais enfin, l'Amérique est toujours là.
L'Amérique est toujours là. Rachel. C'est vrai qu'on a envie de chanter, on a envie de chanter cette chanson de Sardou.
Alors ça, on va l'éviter.
Ben voilà, d'accord, très bien, il fait beau. Il fait beau.
Vous avez raison, mais...
Il fait beau.
Pas tant que je suis là.
Mais d'ailleurs, par rapport à l'autre sujet sur la police qui est intéressant, moi j'ai fait partie, vous savez, des young leaders. Vous savez, les jeunes...
Vous êtes partout.
Les jeunes leaders américains qui fait partie d'une politique du soft power américain, donc une forme de colonisation, entre guillemets, culturelle. Aux États-Unis, quand on a un mari policier, un fils policier ou un frère cher policier, il y a la photo de cette personne qui règne dans le salon avec son uniforme. Mmh. Aujourd'hui, en France, les policiers sont mal vus. Et pour revenir au sujet...
Mais le sujet, c'est l'omniprésence américaine. Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'ils sont en train de se faire démanteler par les Chinois. Parce que les Chinois possèdent une grande partie de la dette américaine. Mais en même temps, ce matin, on a aussi... Je rajoute un autre sujet, c'est Apple, les lunettes... On a l'impression que c'est l'Amérique partout.
Mais oui, parce que c'est le soft power américain depuis une cinquantaine, soixantaine d'années qui a infusé notre société en nous donnant à la petite cuillère un petit peu de sa culture. Moi, j'ai une anecdote juste. On était en tournage à Épinay, dans les studios d'Épinay, avec Gad Elmaleh. Et il y avait dans le catering...
Ça aussi, vous faites.
Oui. Dans le catering, il y avait
des chewing-gums. Danse aux étoiles.
Non, mais dans le catering, il y avait des chewing-gums Hollywood. Et Gad me dit, est-ce que tu penses que dans les studios d'Hollywood, ils ont des chewing-gums épinés? Et en fait, il avait tout résumé. Parce qu'en fait, et ce qui est dingue, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui, nous, notre politique culturelle, elle n'est basée que sur des chiffres, des budgets, des tableaux Excel, alors même qu'on a tous ces films américains que vous avez cités.
Scorsese à Cannes.
Scorsese.
Bon, et puis c'est aujourd'hui. C'est le film dont on a le plus parlé, mais il n'était pas en compétition.
Et exactement. Et puis alors après, on a une colonisation aussi idéologique. C'est ça qui est énorme. Il y a des personnes françaises qui critiquent le système français depuis les États-Unis, que ce soit au Washington Post, que ce soit au New York Times, en pointant du doigt notre passé colonial, etc., alors même que les États-Unis nous colonisent de manière commerciale.
Le New York Times et le Washington Post, ils critiquent aussi énormément de DeSantis, enfin, ils sont totalement démocrates.
Oui, non, mais je parle des Français qui écrivent dans ces journaux.
Mais moi, ma petite question, puisque j'ai pris des exemples volontés divers, parce que ça va justement des lunettes virtuelles, en passant par Springsteen et Beyoncé, et en passant par Pence DeSantis, c'est au fond, est-ce que vous avez le sentiment avec l'expérience qu'il a vôtre, mon cher Hervé, qui a... Parce qu'il y a 15 ans, c'était l'Amérique number one. Est-ce que vous avez l'impression d'un recul? Est-ce que tout ça, ce sont des lunettes virtuelles faussées?
Non, je ne sais pas si c'est un recul. L'Amérique a objectivement... Enfin, les États-Unis d'Amérique ont objectivement moins d'influence sur le monde, au plan politique et diplomatique et même économique, qu'ils n'en avaient à l'époque de la guerre froide, au moment de l'affrontement des deux blocs. Parce qu'au fond, toute l'économie mondiale était dominée par l'économie américaine.
Là, vous avez vu les chiffres. Forbes.
Oui, mais là,
non, mais là on parle des 10 puissantes du monde.
Là, on parle des fortunes et des
non,
capitaux,
des entreprises,
des grandes
derrière.
Entreprises. Oui, bien sûr.
C'est d'abord des entreprises.
Mais l'influence, objectivement, il suffit de se déplacer dans le monde pour voir que le monde d'abord n'est plus divisé en deux blocs et donc dans lequel le plus puissant de ces deux blocs c'était les États-Unis. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus multipolaire que cela. Néanmoins, évidemment, il y a une évidence au fait que le modèle américain reste prégnant. Et moi, je vais même jusqu'à dire que nous avons tous, dans les grandes démocraties, et nous en sommes encore une, heureusement, nous avons un besoin d'Amérique, en quelque sorte.
D'où le débarquement.
Oui, nous en avons besoin, évidemment, dans les grands moments, mais les Américains aussi ont eu besoin de nous et des Européens dans les grands moments. Les Américains savent aussi ce qu'ils doivent aux Français. Donc, il faut ni faire du cocorico, ni un complexe d'infériorité vis-à-vis des Américains. Vous avez parlé vous-même du cinéma et du film de Scorsese qu'on a tous très envie d'aller voir, enfin moi en tout cas, mais pour qu'on en parle et pour le faire briller, ils ont besoin de venir où à Cannes, au Festival de Cannes qui reste...
Donc ça s'est un petit peu rééquilibré, dites-vous.
Oui, mais ça a toujours été en réalité équilibré. Ils sont plus puissants que nous et nous ne disputons pas le rôle de première puissance mondiale avec les Américains. Mais d'autres le font et moi je dis que nous avons besoin d'Amérique, et je ne suis pas d'accord pour une fois avec Rachel sur le mot colonisation.
Parce qu'elle a trop de dossiers.
Je ne pense pas du tout que nous soyons colonisés par les Américains. Je pense qu'il y a un modèle américain
du soft power.
Oui, mais elle a dit colonisé. Et ce modèle, me semble-t-il, est très puissant et relativement dominant. Mais nous n'y sommes pas soumis. Nous avons notre libre arbitre. Nous faisons nos choix. Rappelons la position de Jacques Chirac au moment de l'Irak. Nous ne sommes pas soumis aux Américains. Nous n'entendons pas l'être, quel que soit le président américain.
Je rappelle que le général de Gaulle, à son époque, donc c'est après qu'on a commencé à commémorer le débarquement, avec lui, il n'en était pas question. Dernier point, il ne nous reste pas de temps, donc ça qui est bien. C'est l'affaire Mélenchon. Il y a une affaire Mélenchon parce qu'on est dans l'anti-américanisme primaire total. Mais alors, il y a aussi ce jeu, j'allais dire un peu, je ne vais pas dire vicieux, parce que ce serait péjoratif, mais ce jeu entre les prétendants, c'est-à-dire que Ruffin est parti du côté de la social-démocratie et Quatennens, il le voit comme le meilleur candidat possible. à sa succession. En fait, Rachel, il joue avec les jeunes en se disant « ce sera moi », ou est-ce qu'au contraire, il envisage, pour des raisons de santé, pour des raisons de lucidité, de passer la main ?
Moi, je crois qu'il est...
Alors, vous avez zéro seconde.
Zéro seconde. Il a un symptôme totalement égotique. Donc, il était la République, il nous l'a dit. Et donc, aujourd'hui, c'est un petit peu après moi le déluge. Donc, il fait un jeu de diviser pour mieux régner. Et là, tous les autres sont à la course à l'héritage. Après, moi, ce qui m'étonne juste dans ce parti politique LFI qui se disait le symbole du féminisme, c'est qu'au fond, on a Mélenchon, Quatennens, Ruffin, Bompard et que Panot finit secrétaire.
Ce qu'il y a un paradoxal, c'est qu'au moment où ils sont le plus divisés, aux élections européennes, ils sont en tête des intentions de sondage. Donc, c'est-à-dire que les électeurs, ils sont en train de plébisciter une certaine forme d'union de la gauche et le RN.
Il y a une pulsion de l'électorat de gauche vers l'union, alors qu'en effet, les états-majors se divisent et qu'ils sont objectivement divisés sur des sujets très importants, et notamment l'Europe. S'agissant de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est frappant, c'est qu'il était le chantre du dégagisme et en réalité, il est vraiment le dernier brontosaure de la Ve République. Ouais. En fait, là, ce qu'il joue, ça ferait plaisir à Christophe Barbier s'il était encore avec nous. Il joue Volpone, en réalité. Il fait semblant d'être mourant et de regarder comment s'organisent ses successeurs parce qu'il n'a qu'une seule envie, c'est d'être lui-même son successeur.
Ouais. C'est un peu comme moi, ce qu'il faut. Non, parce que moi, j'arrête à la fin du mois de juin. Un pronostic ! Alcaraz, Tsitsipas, l'après-midi.
Tsitsipas.
C'est ce soir, si je ne m'abuse.
Oui, malheureusement, c'est sur Amazon Prime.
Je pense que ce sera un match formidable. Moi, je dirais plutôt Alcaraz.
On n'est pas d'accord.
Et Khachanov, Djokovic.
Malheureusement, Djokovic.
Pourquoi malheureusement? Vous êtes un malade, 23 grands chelems.
Non, 22, Guillaume.
Eh ben, 23 s'il gagne.
Oui, mais
je vous attends, vous, avec vos petites raquettes, vos petits pieds.
Il n'a pas encore gagné.
Mangez des chewing-gums épernais, ça vous fera du bien. 8h50.